Le Refuge est une fondation nationale créée en 2003 qui a pour objet d'accueillir des jeunes de 14 à 25 ans rejetés par leur environnement familial du fait qu'ils soient homosexuels ou transgenres. Présent depuis quelques mois sur la Loire, le Refuge et son antenne ligérienne voient son activité évoluer par l'ouverture d'un lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement au 25 rue de la Richelandière à Saint-Étienne. Ce sont des bénévoles venus de tout horizon qui se chargent d'animer le lieu, de sensibiliser le public en se déplaçant par exemple dans les établissements scolaires et qui s'investissent ici dans la Loire pour développer des lieux d'hébergement afin de sortir de la rue des jeunes qui font appel à eux. Radio Ondaine vous propose aujourd'hui une rencontre dans les locaux du Refuge à Saint-Étienne avec deux bénévoles, Julie Chamou et Sabrina Askelou.
Du coup, le Refuge, c'est une fondation qui est nationale, qui existe depuis 2003 et qui accueille donc des jeunes maintenant de 14 ans à 25 ans, quand ils sont rejetés par leur famille parce qu'ils sont homosexuels ou transgenres. Et du coup, notre rôle à nous ici, déjà, c'est déjà de donner cette information-là, que les gens aient une visibilité sur qu'est-ce que c'est que le Refuge et à quoi ça peut servir. Et donc, on a ouvert des permanences pour ça, pour faire de la convivialité et de l'écoute pour ces jeunes qui sont dans le besoin.
Alors, ce lieu à Saint-Étienne, on s'était déjà rencontré, Sabrina, il y a quelques temps, pour faire connaître le Refuge. Plusieurs actions avaient eu lieu ici à Saint-Étienne, et notamment dans le quartier au Méliès-Saint-François. Ce lieu était donc une grosse ambition d'ouverture d'un lieu tel que celui-ci pour recevoir donc ces jeunes-là qui sont rejetés par leur famille du fait de leur orientation sexuelle. Comment, historiquement, ça s'est créé à Saint-Étienne? Quel a été le chemin jusqu'à l'ouverture de cette porte au 25 rue de la Richelandière?
Donc au début, on est une antenne relais, donc on est un peu les ambassadeurs du Refuge sur le département de la Loire. Et suite à ça, la mairie nous a beaucoup aidés et nous a mis à disposition ce local. Donc tous les projets qui sont concrétisés assez vite grâce à la solidarité stéphanoise. Et aujourd'hui, on a l'ambition d'ouvrir une délégation donc avec des lieux d'hébergement.
Tout le monde est là, bienvenue. Tout le monde, vraiment, c'est ouvert au public et on insiste là-dessus. On peut être jeune, comme on peut juste vouloir être partenaire, bénévole, mécène et venir nous rencontrer.
La période de Covid que nous vivons actuellement, ces différents confinements, le fait que l'on évite des endroits de sociabilisation et des lieux comme celui-ci aussi, où l'on se pose pour discuter. Comment vous avez vécu ces derniers mois, cette ouverture? Comment vous vivez ça, vous, en tant que bénévole?
Malheureusement, on n'a pas pu inaugurer. On devait inaugurer en novembre et ça nous a bien embêtés. Par contre, le local reste accessible parce que nous sommes une association et du coup, les gens ont le droit de venir même en période de Covid. On a mis un dispositif Covid, donc on a du gel à l'entrée, des masques à disposition du public, etc. Et puis, on essaye de ne pas être trop nombreux au niveau des bénévoles pour laisser vraiment la place aux gens qui veulent venir.
Combien de bénévoles êtes-vous au Refuge?
Alors du coup, maintenant, on est une bonne douzaine. Il y en a encore qui viennent d'arriver, donc on va dire 12, le gros noyau qui travaille vraiment activement. Des hommes, des femmes, des hétéros, des homos, des trans, enfin tout le monde peut être parmi nous. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs origines, plusieurs horizons de vie, différentes tranches d'âge. Donc voilà, ils représentent un petit peu la population en général et c'était vraiment l'objectif d'avoir une diversité aussi au sein des bénévoles.
Quel est le quotidien ou l'organisation hebdomadaire mensuelle d'un bénévole au Refuge?
Alors ça dépend. On est répartis sous différents pôles et qui communiquent par la suite sous le biais de groupes de travail, de comités, selon les événements qu'on veut mettre en place ou les choses sur lesquelles on veut travailler. Alors en période de Covid, là, on n'a pas grand-chose à faire en ce moment, donc c'est vrai qu'on vient assez souvent, voire tous les jours au local pour travailler. Pour avancer au niveau de l'administratif, pour faire des recherches de partenaires, de mécènes, pour contacter les établissements, pour intervenir auprès des élèves, etc.
Ces interventions de sensibilisation auprès des établissements scolaires, comment ça s'organise? Quels sont les outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour rencontrer ces jeunes?
Du coup, on a mis en place un système de démarchage auprès des établissements. Après, ils répondent oui ou non, voilà. Il y en a qui refusent catégoriquement, il y en a qui ont envie de le faire. On propose un format de 2 heures d'intervention par classe. Les interventions sont gratuites, donc c'est important de le savoir aussi, parce que ça peut aider l'établissement à venir vers nous. Et donc, on n'a pas vraiment d'outils. Donc, on a un protocole, qui est un protocole qui est national, que tout le monde suit. On se sert pas mal d'images pour essayer de déconstruire les clichés, les stéréotypes qu'ont les élèves. C'est assez marrant à voir, d'ailleurs. Mais voilà, on part vraiment c'est un échange, c'est pas un cours, c'est pas une conférence, c'est vraiment un échange entre leurs a priori et qu'est-ce que c'est que l'homophobie, qu'est-ce que c'est l'homosexualité, qu'est-ce que la transidentité, et on essaye de déconstruire tout ça.
Quelles sont leurs réactions face à vous? Quelles sont les questions qu'ils peuvent être amenés à poser? Et puis, est-ce qu'il y a un travail ensuite avec les ou en amont avec les équipes éducatives?
Beaucoup de curiosité de la part des élèves, parfois aussi beaucoup de maladresse. Ça varie assez beaucoup. Il y a des élèves qui sont très, très au courant sur le fait, sur la population LGBTI+. Et puis, il y en a d'autres qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas ce qu'est l'homosexualité ou l'homophobie. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est très intéressant de pouvoir discuter librement avec ces jeunes sans frontières, sans barrières, etc.
Sur ces interventions, vous les planifiez donc à l'avance. Dans l'idéal, vous tablez sur combien d'interventions par année, combien d'établissements? Est-ce que c'est aussi une semaine dédiée à un établissement scolaire en passant par tous les niveaux?
Alors, on se donne pas d'objectif, hein. On n'est pas vraiment dans une démarche d'avoir du chiffre, c'est pas du tout ça, on est plutôt dans la qualité que dans la quantité. Après, ça dépend, alors on est overbooké pour le mois de février et le mois de mars, ça dépend des établissements, après c'est très aléatoire en fait, on peut pas vraiment dire, et on essaye de faire tous les niveaux, ça dépend, on commence à partir de la quatrième, et ça va jusqu'à la terminale, autant de collégiens que de lycéens, mais ça commence à la quatrième.
Ici, c'est vous qui donc allez vous déplacer face au public et au public qui potentiellement est un public que vous pouvez accueillir ici. Et l'accueil, c'est donc ce qui se passe dans ce lieu, au 25 rue de la Riflandière. On a visité tout à l'heure. Peut-être faisons une visite sonore. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve ici?
Un salon convivial pour accueillir les permanences. Une petite salle de réunion, une salle informatique aussi pour aider les jeunes dans leur démarche administrative pour trouver du travail, un logement, etc. Et puis un bureau pour avoir accès à l'intimité avec un psychologue ou pour pouvoir parler de sa situation de façon plus privée. Voilà.
Vous parliez de psychologue, les partenaires sur lesquels vous appuyez ici, notamment en tant que psychologue, qui sont-ils ?
Alors du coup, on a commencé là à réfléchir à comment on va accompagner ces jeunes au niveau... Alors il y a deux choses, hein. Soit on fait de l'accueil, soit on fait de l'écoute, soit on fait un accompagnement. Donc nous, on fait déjà de l'accueil, donc tout le monde est la bienvenue. On fait de l'écoute parce qu'on est des êtres humains et qu'on peut entendre chacun son parcours. Moi, je veux faire mon coming out, je sais pas comment le faire, discuter de ces choses-là. Et par contre, l'accompagnement vraiment, l'accompagnement de jour va commencer bientôt quand on aura... tous les agréments dont ça nécessite, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on décide de faire de l'accompagnement avec des jeunes, c'est très réglementé. Mais on a déjà un psychologue qui s'appelle Kevin Moulin, et qui est un psychologue spécialisé dans la transidentité.
Qui sera ici sur rendez-vous, voilà, est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'organisation ou c'est en construction encore?
Non, en fait les jeunes signent un contrat d'accompagnement de jour, et après ils doivent respecter certaines règles, bien sûr. Ils doivent venir tant de fois par semaine, ils doivent... avoir des rendez-vous avec le psy, avec la travail sociale. On va avoir une travail sociale aussi avec le CCAS de Saint-Étienne. Donc voilà, il y aura vraiment un règlement qui est national et qu'on va adapter ici. Et plus tard, on espère pouvoir aussi ouvrir l'hébergement, et ça c'est encore une autre histoire.
D'accord. Alors revenons un peu sur ce contrat à signer. Pourquoi au niveau national, ce protocole est-il mis en place?
Il est mis en place parce qu'il faut donner un cadre aux jeunes en fait. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, parce qu'on veut leur montrer aussi qu'est-ce que c'est que la vraie vie. On est là pour les aider, les accompagner, mais qu'ils prennent bien conscience que c'est un tremplin. C'est vraiment pour les aider, les pousser à sortir en fait de leur galère, hein. Mais qu'on peut pas se reposer non plus toute la vie sur une association, qu'il faut qu'ils s'en sortent. Et je pense que si on donne envie à quelqu'un de s'en sortir, c'est comme ça qu'il se bouge et qu'il arrive à sortir de ce qu'il a vécu, ce qui est terrible, hein, tous ces jeunes dans la rue et qui n'ont pas choisi d'y être parce qu'ils sont juste homosexuels ou trans. Mais voilà, ce cadre, il est peut-être peut paraître assez strict, mais c'est vraiment important pour qu'ils puissent s'en sortir.
Alors peut-être pour donner des indications à nos auditeurs qui entendent cette émission-là, sans faire un alignement de chiffres, on estime à combien de jeunes qui sont mis à la porte de chez eux chaque année du fait de leur orientation sexuelle ou leur transsexualité?
Nous, en tout cas, au refuge, on a 186 places d'hébergement. Donc ces 186 places, elles sont fixes pour un an, mais un jeune reste entre... La moyenne, c'est 6 mois. Donc ça dépend, hein. Des fois, il y en a qui restent 2 mois, il y en a qui vont rester un an. Mais voilà, mais malheureusement, bien sûr que la demande est triple, voire quadruple, voire je ne sais même pas par combien on peut la multiplier, parce que les appels sur la ligne d'urgence ne cessent pas. Et voilà, nous, on a ce nombre de places qu'on aimerait élargir, mais bien sûr, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, ça demande de l'argent, mais ça demande surtout d'avoir les équipes pour, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas plus de places pour l'instant. Parce qu'une fois de plus, on est dans une démarche qualitative. Il suffit pas d'avoir juste un toit à proposer à un jeune, c'est leur proposer vraiment un accompagnement H24, 7 jours sur 7.
Vous évoquiez le numéro d'urgence du refuge. Quel est-il? Quelle est cette ligne d'urgence et quelles sont les amplitudes horaires?
Alors, c'est la porte d'entrée au refuge. Elle est ouverte 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Il y a deux choses sur la ligne d'urgence. Soit la ligne d'urgence pour un jeune qui est un petit peu dans la galère et qui aurait besoin de trouver une solution assez rapidement. Soit la ligne d'écoute, c'est un bénévole qui se met à disposition d'un jeune qui peut le contacter assez régulièrement pour parler de sa situation, etc. Donc le numéro, c'est le 06 31 59 69 50.
Alors, le refuge bénéficie d'une exposition nationale par sa marraine qui est Muriel Robin, une exposition qui est bénéfique à l'association. Aujourd'hui, dans les médias, dans l'information qui est donnée, les réseaux sociaux, quel regard vous portez sur cette question de l'homophobie, de la transphobie, où d'un côté on a une exposition médiatique importante de personnes qui défendent, et d'un autre côté la liberté totale que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux pour lyncher des personnes parce qu'elles sont ce qu'elles ont envie d'être?
Alors oui, c'est vrai ça peut paraître assez aberrant que de plus en plus de personnalités assument leur homosexualité ou leur transidentité. Et on leur dit merci parce que c'est grâce à eux que les choses vont évoluer. C'est grâce aussi au fait que j'en parlais encore dans la fois l'intervention en milieu scolaire, qu'il y ait de plus en plus de personnages LGBT dans les séries, dans les films, qu'on avance. Après, le problème, c'est que cette exposition, surexposition même médiatique, bien sûr, amène de la haine, de la colère et délie les langues. Alors bien sûr, c'est encore plus facile de parler face à un écran. Donc c'est pour ça qu'on a un déferlement de haine sur Twitter en particulier, de personnes qui se mêlent de la vie intime de personnalités qui leur paraissaient normales, entre guillemets, et normales parce que pour eux, normal, c'est être hétérosexuel. Donc à partir du moment où ces personnes s'exposent et disent, voilà, vous m'appréciez dans telle série, vous m'appréciez dans tel film, émission, je suis homosexuel, je suis trans, forcément, ça ne leur plaît plus parce que ça, c'est comme quand on est dans une famille, qu'on pense que tout le monde est hétéro, et finalement, quand on aperçoit que son frère est homosexuel, on l'aime, c'est pas qu'on l'aime plus, mais c'est qu'on s'aperçoit que c'est pas la personne qu'on aurait aimé avoir en face de soi.
Est-ce qu'on imagine ici au refuge des médiations familiales? Est-ce que ça, c'est dans aussi l'action du refuge?
Alors, c'est sur la demande du jeune. Ça doit être vraiment une demande qui vient de lui. Mais nous, en tout cas, on ne fait pas forcément de médiation. C'est exclusivement si il en trouve le besoin ou autre.
Alors ça nous arrivait très peu de fois, hein, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, parce qu'il y a une autre association qui s'appelle Contact et qui fait exclusivement ça. Ce sont des anciens, je dis toujours anciens, mais en fait ce n'est pas des anciens parents, mais des parents qui ont eu du mal à accepter leur homosexualité de leurs enfants, leur transidentité, et qui, après avoir parcouru ce chemin, ont ouvert ces associations pour en parler et accueillir justement ces familles. Quand ça nous est arrivé de le faire, on le fait toujours bien sûr dans un lieu neutre, on va pas dans la famille, et en général ce sont des délégués, donc délégués régionaux ou départementaux, qui se déplacent sur la demande du jeune pour dire comment ça se passe. On a beaucoup par contre de familles qui nous appellent pour parler de la transition de leurs enfants dans une bonne démarche, hein, parce qu'ils sont perdus, comment ça se passe et pourquoi. Ça, c'est très appréciable de voir que les parents leur apportent une main tendue, en fait, pour comprendre.
Pour comprendre l'existence du refuge, c'est aussi finalement se rendre compte qu'on a besoin d'aide. Pourquoi faut-il venir vous voir et ne pas hésiter à franchir votre porte si l'on sent le besoin d'exprimer, de parler et de parler de soi et de ce qu'on peut vivre?
Parce qu'au refuge, les jeunes voient qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation. Et de voir qu'il y a des futurs amis, des camarades ou même des personnes qu'on connaît et puis qu'on retrouve dans des associations LGBTI+, ça aide les jeunes à ne pas rester de leur côté et vraiment à voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation et donc que c'est surmontable.
L'évolution, c'est donc le fonctionnement total de ce lieu-là, le public qui y vient, et puis après l'idée du refuge, comme son nom l'indique, c'est ces places d'hébergement. Vous imaginez quelles échéances pour ouvrir les premiers studios, appartements à Saint-Étienne?
Alors ça se fera en 2021, après je ne sais pas si ça sera en mars, en décembre, mais en tout cas c'est le projet de cette année vraiment, parce qu'on a senti l'urgence, qu'on est dessus, Julie travaille depuis plus d'un an, donc on attend, hein, on attend comme tout le monde. Après avec le Covid ça a retardé les choses encore plus, mais ça va se faire cette année c'est sûr.
Vous évoquiez tout à l'heure le soutien de la municipalité, la mise à disposition de ces locaux. Comment ça se traduit, cet autre soutien, que ce soit d'une manière palpable, hein, physique, ou que ce soit d'une manière morale, psychologique, entre guillemets?
C'est déjà parce que clairement, sans eux, on n'aurait pu rien faire du tout, je pense. Ils nous ont vraiment ouvert les bras. Je pense qu'ils ont senti qu'il fallait accompagner ces jeunes-là, qu'ils ont senti, bien sûr, les bénéfices hein, d'avoir le refuge dans leur ville. Et oui, au quotidien, concrètement, ça se traduit par plein de rencontres avec eux, des ouvertures de leurs services, une subvention qu'on a eu le droit aussi, et que ça, on les remercie encore. Mais c'est surtout vraiment la proximité qu'on a avec tous les élus, hein, Samuel Kéfi-Jérôme en particulier, Olivier Barbet, Monsieur Padriot, Madame Buffard en particulier, qui nous a beaucoup aidés, qui sont à notre écoute et qui nous ont dit, voilà, clairement, pour aider ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les clés, quels sont les outils, et qui nous aident au quotidien, on les voit régulièrement pour avancer ensemble.
Alors la communication autour de vos activités, on l'a compris, dans les établissements scolaires, pourquoi pas. Est-ce que vous avez aussi des campagnes de communication avec des dépliants disponibles dans des centres sociaux, planning familial ou autres lieux d'accueil de public, même si ceux-ci sont fermés en ce moment? Comment vous parlez de vous?
On a beaucoup parlé jusqu'ici sur les réseaux sociaux, c'est ce qui était le plus accessible avec les confinements. Mais là, on essaye de plus en plus se déployer, surtout au niveau des étudiants de la faculté, etc. Déposer des prospectus, rencontrer la maison des étudiants, etc.
Pour vous contacter, quelle est la meilleure façon de faire pour contacter le refuge de la Loire et ce local à Saint-Étienne?
Du coup, on a mis en place une adresse mail qui est très simple, c'est Saint-Étienne. Sans entrée d'union, juste saint-etienne-le-6-refuge.org. saint-etienne-le-refuge.org. Non, il n'y a pas de numéro de téléphone, c'est le numéro de la ligne d'urgence, parce que de toute façon, s'il y a un jeune qui appelle, un jeune stéphanois ou en tout cas ligérien, il sera redirigé automatiquement vers nous.
Et le numéro de la ligne d'urgence, nous allons le rappeler, c'est le 06 31 59 69 50. Ligne d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'association Le Refuge, et également la possibilité d'envoyer des SMS.